La dernière fois où j'ai eu un usage détourné de médicaments, c'était du coup la veille de ma rentrée en clinique. C'était en fait cette dernière semaine pour moi était une dernière semaine de liberté avant d'éradiquer toute substance de ma vie. Et je me suis défoncée vraiment tous les jours. Et ce dernier soir, du coup, le dernier souvenir que j'ai, c'est vraiment de gober deux Xanax avant d'aller me coucher parce que j'avais tapé de la coke toute la soirée et qu'il fallait que je dorme parce que le lendemain, j'allais me lever pour partir en clinique. Donc ça, c'est le dernier usage détourné que j'ai eu d'un médicament.
Vous écoutez Ma Dernière Fois, le podcast d'Addicted, un portail destiné à celles et ceux qui souhaitent s'informer, comprendre et se sortir d'une addiction à un produit ou un comportement. Justine se décrit comme une enfant et une adolescente assez sensible. Très affectée par le divorce de ses parents, ses consommations d'alcool sont précoces et très vite excessives. Jeune adulte, en arrivant à Paris, elle consulte car elle se sent déprimée, anxieuse et elle dort mal. Les médicaments anxiolytiques font alors leur entrée dans sa vie. Très rapidement, pour calmer son anxiété, Justine ne respecte plus les prescriptions et augmente les dosages par elle-même. Avec l'augmentation des doses, elle souffre de troubles de la concentration, n'a plus goût à rien, ressent une fatigue extrême constamment. Progressivement, elle sent que son corps est en train de lâcher. Un matin, à la sortie d'un after, elle appelle sa maman à l'aide. La dernière fois qu'elle a eu un usage détourné des médicaments, c'était avant son entrée à la clinique. Depuis 4 ans, elle n'a pas rechuté, s'est redécouverte et a changé sa vie du tout au tout. Ma Dernière Fois est un podcast réalisé avec le soutien de la Fondation Engie.
J'étais une enfant et une adolescente assez sensible. Et les traumas que j'ai eus pendant mon enfance et surtout pendant le divorce de mes parents m'ont énormément affectée. Ce qui a mené vers en fait une consommation dès mon plus jeune âge. J'ai commencé à consommer de l'alcool, j'avais 14-15 ans. Et directement, en fait, ma consommation a été très excessive dès le début. Ça, je m'en suis rendu compte plus tard, parce que sur le moment, on n'arrive pas à s'en rendre compte forcément. Moi, en tout cas, je ne m'en suis pas rendu compte. Et c'est vrai qu'en y repensant plus tard et en analysant tout ça, j'ai fait des blackouts très vite. Je vomissais très souvent. Et plus qu'en fait, mes potes autour de moi. Donc, c'est-à-dire que très vite, ma consommation était déjà un problème. Et j'étais déjà en plein dans la maladie addictive sans en être consciente et sans le savoir. Les médicaments sont arrivés tard dans ma consommation. C'est vrai qu'en fait, quand je suis arrivée à Paris, j'ai décidé d'aller voir un psychiatre parce que j'étais pas bien, j'étais en dépression, j'avais des problèmes pour dormir et des très gros problèmes d'anxiété. Et si tu veux, à ce moment-là, je réalisais pas du tout que c'était lié à ma consommation. Pour moi, j'étais pas du tout dans l'addiction, alors que je consommais énormément tous les jours. Et je suis allée voir un psychiatre à Paris qui, lui, a commencé à me prescrire des médicaments. Il m'a pas du tout diagnostiqué de l'addiction. En fait, il m'a diagnostiqué une sorte de bipolarité et d'excès. Donc, j'ai été prescrit. On m'a prescrit un dérivé d'épileptique pour balancer mes humeurs. Et des anxiolytiques pour dormir et pour me calmer pendant mes crises d'anxiété. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai goûté en fait la première fois un médicament. Alors, est-ce que j'avais conscience des risques? Je ne pense pas, parce que j'étais déjà tellement dépendante à d'autres produits que le médicament, pour moi, il était prescrit par un médecin. Donc, il y avait le côté médical qui était assez rassurant en me disant « Bon, ça va me soigner, ça va soigner ma dépression, ça va soigner mon insomnie, ça va soigner mon anxiété. » Et j'étais complètement inconsciente à ce moment-là et je n'avais aucune idée des risques qu'un anxiolytique pouvait avoir sur mon comportement déjà addictif à d'autres substances. Et c'est vrai que il y avait un côté rassurant, en fait, avec le fait que c'était prescrit par un médecin, que je respectais les doses. Petit à petit, évidemment, c'est allé très vite où j'ai augmenté les doses par moi-même en ne respectant pas du tout l'ordonnance. Je me servais des médicaments pour me calmer, pour m'endormir, pour calmer mes crises d'anxiété qui étaient de plus en plus fréquentes, mes insomnies qui étaient quasi journalières à cause de ma consommation aux autres produits. Et c'est vrai que c'était très rapide. Donc petit à petit, c'est allé de pire en pire. Et puis après, je me procurais des médicaments qui n'étaient même plus sur mon ordonnance. Donc ça m'arrivait, je me souviens une fois. Ma mère m'avait filé une ordonnance de Stinox pour ma tante des États-Unis et je devais aller lui en prendre à la à la pharmacie et en fait, j'ai gardé une boîte de Stilnox pour moi, par exemple. Pareil, j'avais une copine qui était venue des États-Unis qui avait de l'Adderall parce que aux États-Unis, on en prescrit beaucoup et elle avait une consommation d'Adderall de temps à autre. Moi, je lui avais piqué tout son boîtier d'Adderall pour prendre de l'Adderall pendant une soirée, tout le temps. Donc en fait, tout était prétexte à vraiment me fournir des médicaments en permanence. Et je pense que le fait d'avoir ces médicaments tout le temps avec moi, de ne jamais être en manque de médicaments, était pour moi rassurant. Parce qu'en fait, quand on pense médicaments, on pense forcément médical, donc contrôlé. Et dans ma tête, même si ma consommation, elle avait perdu totalement le contrôle et que je ne contrôlais plus du tout cette consommation de médicaments, pour moi, ça restait quand même quelque chose... Je ne l'apparentais pas à de la drogue. Principalement, moi, j'étais accro à des anxiolytiques. Donc, c'est des médicaments qui endorment, qui shootent, quand sont mélangés avec l'alcool, déculpent énormément les effets de l'alcool. Donc, par exemple, moi, mes copines, quand j'allais boire des verres avec elles et que je buvais un ou deux verres, directement, moi, j'étais morte. J'étais défoncée. Et souvent, mes copines ne comprenaient pas pourquoi, parce qu'elles buvaient la même chose que moi, mais sauf que ça ne leur faisait pas le même effet. Les médicaments, je pense qu'ils ont eu un effet énorme sur mon trouble de l'attention. Je n'arrivais pas à me concentrer sur rien. Ça avait un impact aussi sur ma santé mentale, évidemment. J'étais en constante dépression. Donc, c'est vrai que j'avais goût à rien. Au travail, c'était très difficile pour moi de fonctionner, évidemment. Des effets physiques, je n'en ai pas eu, à vrai dire. Ou en tout cas, j'en ai pas le souvenir pour l'instant de les avoir vraiment ressentis, à part une extrême fatigue constamment. Parce que du coup, en fait, on pense qu'on dort, mais on dort pas. C'est pas du vrai sommeil. Donc, je récupérais vraiment jamais. Une perte de poids. Voilà, je perdais énormément de poids parce que je mangeais très peu. Donc, peut-être ça, c'était des aspects, des conséquences physiques. Après, les ressentir sans le moment, je les ai pas ressentis. Et c'est comme les aspects mentaux. Moi, je pensais que voilà, j'avais pas de problème d'addiction, que j'étais simplement une fille déprimée, en dépression, et que je me soignais avec ces médicaments. Alors que l'ironie, c'était qu'en fait, je me détruisais totalement. Ça me fait rire à chaque fois parce que c'est vraiment une question qu'on pose tout le temps, le déclic. Quand est-ce que tu as eu ce déclic ? J'appellerais pas ça un déclic, chez moi en tout cas. Parce que je pense que c'est une série d'événements qui a mené à ce que j'appelle, que je passe cet appel. Je sortais d'after un matin, en fait, et il était assez tard, et j'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé ma maman. Et en fait, je l'ai appelée à l'aide. Parce que c'était vraiment un moment où je sentais que j'en pouvais plus, que j'arrivais plus à avancer, que mon corps était en train de me lâcher, que vraiment je ressentais des effets assez physiques de ma dépendance et mentale, moi je commençais à me dire « Ok, c'est soit là ça, tu vas mourir, donc tu vas mourir soit d'une overdose ou soit tu vas te foutre en l'air, ou soit tu vas décider de vivre ». Et en fait j'avais un peu cette dualité en moi et j'ai eu comme une pulsion en fait de vie. Dans ma destruction, j'ai appelé ma mère. Donc voilà, c'est quand même assez fort parce que c'est quand même elle qui m'a mise au monde. Donc c'est vrai que je l'ai appelée et je lui ai dit « Maman, j'ai besoin d'aide ». C'est très difficile pour quelqu'un, en tout cas pour moi qui étais dans cette situation, de me mettre dans une position de vulnérabilité et d'accepter que j'ai besoin d'aide. Parce que je disais tout le temps « Mais moi, j'ai besoin de personne, je m'en sors comme je veux. » Et puis moi, je ne suis pas addict, en fait. Moi, voilà, je consomme, je suis une excessive, mais ça fait partie de ma personnalité. Et je me suis identifiée autour de ça, comme je me suis construite autour de cette personnalité d'addiction. C'est tout ce que je connaissais. Donc c'est vrai que ce matin-là, j'ai appelé à l'aide. Et en fait, ma maman m'a répondu de manière très sereine en me disant que, bien sûr, qu'elle allait m'aider et qu'elle avait déjà trouvé un endroit pour moi où aller, quoi. Mais je lui ai dit, il faut qu'on m'aide, il faut que je me sorte de ça. Quand je suis arrivée dans cette clinique, en fait, on fait un bilan, on fait des prises de sang, on voit un médecin. On doit dire hein, tous les produits qu'on prend. Toutes les substances. Donc moi, j'ai listé tous les médicaments que je prenais, à quel dosage. J'ai donné mes ordonnances aussi en disant que, bien sûr, je ne respectais pas les doses. Donc ils nous demandent de l'honnêteté. Hein. Après, c'est à moi de dire la vérité ou pas. Moi, j'ai décidé de dire la vérité parce que je me suis dit, OK, on est là pour m'aider. Donc autant qu'à faire, il faut que maintenant j'arrête de mentir. Ça, c'est un poids énorme que j'ai enlevé de moi. Et le sevrage ensuite commence parce que du coup, je pouvais avoir accès à aucune substance, sauf les médicaments. En fait, on nous garde le traitement de base qu'on a et on nous donne un anxiolytique pour en fait gérer les effets, surtout de l'alcool, principalement de l'alcool et des autres substances, pour pouvoir gérer ce sevrage. Moi, en plus des médicaments, j'avais quand même beaucoup, beaucoup d'autres substances. Donc forcément, on pouvait pas tout m'enlever. Ce qui est dangereux aussi de ne pas être médicamenté pendant cette période de sevrage. Mais petit à petit, on allait tout me réduire et on allait tout m'enlever. Le but, c'était que je sorte de la clinique sans médicaments et sans anxiolytiques surtout. Le sevrage, je l'ai ressenti très fort les deux premières semaines. J'ai eu de la paralysie du sommeil, des hallucinations. Je transpirais énormément. Je tremblais aussi énormément. J'avais énormément de crises d'angoisse. C'était très dur. Mais voilà, parce que j'avais beaucoup de choses. Je devais me sevrer de beaucoup de choses. J'avais pas que les médicaments. Donc après, c'est vrai que c'était très intense. Mais ça a été quand même bien vécu parce que j'étais entourée. J'avais un personnel soignant. Je pouvais parler des effets de mon sevrage au psychiatre ou au psychologue. Le psychiatre que je voyais tous les jours. Je pouvais en parler en groupe de parole. Avec des gens qui connaissaient ça. Donc c'est vrai que malgré le fait que psychologiquement et physiquement ce soit dur au début, ce qui est merveilleux, c'est que dans ce système de soins et quand on est pris en charge, on peut en parler et on n'est pas seul. Quand je suis sortie de la clinique, j'avais plus du tout de médicaments. Ils voulaient me sortir avec le moins de médicaments possible, donc ils m'ont même enlevé l'anxiolytique que j'avais pendant la période où j'étais en clinique. Je suis juste ressortie avec mon antidépresseur. Et j'ai eu un suivi du coup psychiatrique pendant un an pour pouvoir en fait réduire cet antidépresseur, parce que mon souhait à moi, c'était vraiment de m'affranchir de tout médicament. Et donc petit à petit, évidemment, ça a été pas facile au début, parce que quand j'ai réduit l'antidépresseur qui n'est pas addictif, j'ai quand même eu des effets de sevrage de l'antidépresseur, parce que quand ça faisait quand même 6 ans, j'étais sous antidépresseur. C'est vrai que c'est pas facile de réduire. Mais bon, petit à petit, on le fait. Il y a des périodes qui sont un peu plus difficiles. Mais voilà, ensuite, un an après, je suis ressortie vraiment sans zéro médicament. Je n'ai jamais rechuté en 4 ans. Bien sûr, on ne sait pas ce que le futur me réserve. Cette maladie, je l'ai avec moi à vie, même si je suis rétablie aujourd'hui. Donc oui, je n'ai jamais rechuté, je n'ai jamais retouché un autre médicament. Mais voilà, je vais toucher du bois et je vais dire que pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé et j'en suis très heureuse. Ce qui ne fait pas pour autant que ça ne peut pas m'arriver, parce que c'est en moi et je sais que cette maladie, elle est en moi à vie, quoi. C'est vrai que la vie sans conso, ça fait peur, parce qu'on se demande comment on va gérer ça. Et moi-même, j'ai eu peur parce que je me suis dit, mais je ne me connais pas sans conso, donc qui je vais être, comment je vais faire, comment je vais interagir avec les gens autour de moi, comment est-ce que ma vie sociale va évoluer. Et en fait, avec le recul, maintenant, je me suis dit que c'était une aventure géniale d'entamer ça. C'était excitant, en fait. C'était une peur, mais c'était une peur positive. Et ma vie, elle a changé du tout au tout parce que j'ai décidé de la changer. Je savais que si je reprenais ma vie à Paris avec mes habitudes, dans le même travail, avec le même entourage, j'avais une forte possibilité de rechute. Donc j'ai envisagé de quitter Paris, de revenir dans le sud chez ma mère, de quitter mon job, d'interrompre mes études et de me mettre vraiment en stand-by pour prendre du temps pour moi et pour me prioriser. Ce qui est très important dans le rétablissement, c'est vraiment de se mettre avant tout. Donc j'ai perdu un job, j'ai interrompu des études. J'avais plus mon cercle de potes autour de moi et ma vie sociale. Ok, très bien, mais de toute façon, ça ne me convenait pas. C'était pas bénéfique pour moi, donc maintenant, il va falloir changer. Donc je me suis dit qu'il fallait que je change du tout au tout. Je pouvais prendre ça comme un step back, de dire que... à 24 ans, c'est chiant de revenir chez ses parents et de revenir en arrière dans la ville que j'avais quittée auparavant. Mais du coup, j'ai accepté ce changement et j'ai tout changé, justement. J'ai changé ma manière de me lever le matin, de dormir, de manger. Tout était une redécouverte. Donc, c'est assez excitant parce qu'on change vraiment toutes ces habitudes qui étaient à la fois toutes basées autour de la consommation, qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc, on redécouvre un peu la vie. d'une autre manière, sous un autre prisme. C'est pas facile tous les jours, hein, c'est pas non plus une grande épopée joyeuse, mais c'est très intéressant parce qu'on apprend à se connaître. Donc en fait, moi, j'ai vraiment découvert qui j'étais sans la consommation et sans filtre, sans rien du tout. Donc vraiment, c'était pour moi une grande découverte, une grande aventure. Et je regrette vraiment pas d'avoir fait ce choix parce que j'ai changé mes habitudes. Je me suis mise au sport énormément dès ma sortie de clinique, ce qui a complètement changé ma manière aussi de ma relation avec mon corps. Et le corps aussi, c'est l'esprit. Donc forcément, ma relation à mon corps, à ma façon de manger, à ma façon de m'accepter en tant que femme a complètement évolué. Et donc du coup, mon mental a évolué à travers ça. Enfin, je trouve que c'est quand même un trésor de pouvoir, à mon âge et même à des âges plus avancés, de pouvoir dire qu'on peut changer de vie parce qu'on a décidé de choisir la sobriété.
Vous venez d'écouter Ma Dernière Fois, le podcast d'Addicted, un portail destiné à celles et ceux qui souhaitent s'informer, comprendre et se sortir d'une addiction à un produit ou un comportement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Ma Dernière Fois est un podcast réalisé avec le soutien de la Fondation Engie.